9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
C'est le titre événement de ce début d'été, un duo dont le clip très sobre en noir et blanc a déjà été vu sur YouTube par 10 millions de personnes et sans doute davantage. Mais que se passe-t-il? Bonjour Grand Corps Malade.
Bonjour.
Je voulais qu'on l'écoute ensemble, ce duo événement avec la chanteuse et humoriste Camille Lelouch. Et franchement, on ne va pas hésiter avec votre voix, c'est vous qui allez lancer le titre.
Ouais bah, c'est parti. Alors, donc, en duo avec Camille Lelouch. C'est un extrait d'un album qui sortira à la rentrée qui s'appelle Mesdames, et là le morceau s'appelle Mais je t'aime.
Ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup. Et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final le feu, ça brûle.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime, je t'aime.
Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais
je t'aime.
Je t'aime.
Camille Lelouch et Grand Corps Amoureux. C'est vrai, il faut changer de nom maintenant.
Grand Corps Amoureux, ouais.
Bah ouais.
Ça fait longtemps, ça.
Bah oui, mais enfin... qu'est-ce qui se passe avec ce titre, Grand Corps Malade?
Eh ben, ouais, la magie d'un titre qui, d'un seul coup, prend, les gens se l'approprient, on reçoit sur les réseaux sociaux, mais des centaines et des centaines, avec Camille, on reçoit des centaines de messages ou de gens qui dansent dessus ou qui le reprennent en chantant, qui refont des covers, comme on dit, des reprises au piano, à la guitare. Voilà, d'un seul coup, c'est un titre qui parle aux gens. Et,
vous l'avez vu venir?
Non, on ne voit jamais venir un truc comme ça. On sentait que On l'a fait écouter autour de nous quand on l'a fait, et c'est vrai que tout le monde était assez ému par ce titre, qui est à la fois très simple et très direct, et donc on s'est dit, bon, ouais, bah, c'est pas un hasard si on l'a sorti en premier extrait de l'album, c'est qu'on sentait qu'il plaisait. Après non, on savait pas qu'on allait faire ces millions de vues, premier d'iTunes depuis trois semaines, tout ça évidemment, c'était pas prévu.
Et vous avez envie de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire pourquoi ? Pourquoi ce titre touche tellement ?
Bah, je sais pas s'il y a vraiment une explication. Souvent, non. Un succès comme ça, c'est un mélange de facteurs, un truc qui fait qu'à un moment, ça devient évident pour les gens, qu'ils ont envie de l'écouter, de le réécouter. Évidemment, il y a la super belle voix de Camille qui accroche dès le début du morceau parce qu'elle a une espèce de fêlure, une voix légèrement éraillée qui est très touchante. Et puis, il y a sa mélodie, c'est elle qui a fait la mélodie.
C'est quoi l'histoire de ce morceau ?
Alors, c'était un morceau à elle. En fait, bon, moi, j'invite Camille sur mon album en disant, voilà, je vais faire un album qui va s'appeler Mesdames avec que des duos féminins. J'aimerais bien en faire un avec toi. Et là, elle était dans nos bureaux, là, il y avait un piano, elle se met au piano, elle dit, est-ce qu'on écrit un truc sur mesure, comme je l'ai fait sur tout le reste de l'album ? Elle dit, mais sinon, moi, j'ai des petits bouts de chansons déjà qui existent, et elle me joue celle-là. Et elle m'en joue d'autres, mais voilà, c'est celle-là vraiment qui m'a fait tilt, et où je me suis dit, ouais, moi, j'adore cette mélodie, et j'ai envie d'écrire là-dessus, et j'ai envie de répondre à ce bout de chanson qui existe déjà, quoi.
Et vous l'avez fait en impro, non ?
Non. Non, oui, il y a une vidéo qui circule où moi j'improvise dessus, mais c'était des bouts de texte existants. Non. Après, j'ai bien écouté ces paroles et je lui ai répondu en écrivant sur mesure. Je ne suis pas du tout bon en impro, moi, donc j'ai besoin de passer par l'écriture.
Et c'est parce que ce titre est absolument parlant et va au cœur des sentiments que le clip, à l'inverse, est très très sobre, noir et blanc. Vous et Camille Lelouch, d'abord dos à dos, puis ensuite face à face, enfin très sobre.
Très sobre, ouais. J'aime bien les clips sobres à partir du moment où il y a une chanson qui a du texte. C'est vrai que les clips où il se passe énormément de choses à l'image, bah, du coup, tu essayes de comprendre ce qui se passe à l'image et ça pollue un petit peu le texte. Et là, justement, la sobriété des images, ce face à face, de profil comme ça, noir et blanc, à la fois est assez touchant, parce qu'en plus Camille est très touchante, parce qu'elle a eu une petite montée d'émotion pendant le clip, et à un moment on voit qu'elle a du mal à faire ses paroles, et il y a les larmes qui coulent, donc ça, il y a eu ce petit moment en plus magique du clip, on a dit bon, on va garder ça, c'est très beau, et du coup bah, on écoute le texte, on écoute la mélodie, un moment comme ça, assez doux. Comme ça.
Avant d'évoquer votre nouvel album, attendu le 11 septembre, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça.
Quand même, cette date, on continue à y penser, non ?
Comme ça, on se rappellera de la date.
Ouais.
On ne sera peut-être pas nombreux à sortir ce jour-là.
On écoutera un autre titre tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Nous sommes, il y a 4 mois, nous sommes pré-Covid. Et vous, en mars, vous êtes censé terminer votre tournée, entamer l'année d'avant. Le tour du plan B.
Ouais, c'est ça. On a fait presque 150 dates, très longue tournée. On a fait une dernière date de concert début mars à La Réunion. J'étais jamais allé en plus jouer là-bas, donc c'était très très bien, très festif.
Il restait un petit peu de dates. Voilà.
On a dû annuler 4-5 dates, donc c'est vraiment une chance d'avoir annulé que 4 dates par rapport à mes petits collègues, dont certains ont annulé des dizaines et des dizaines de concerts.
Vous avez des gens vraiment malheureux autour de vous, des artistes, disons, plus fragiles, moins installés que vous, qui souffrent ?
Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, que ce soit dans la chanson, dans l'humour, des artistes qui commençaient à bien marcher, et d'un seul coup, bah, voilà, c'est le coup d'arrêt, ou du coup presque un an d'arrêt, pas vraiment de promo, tout a redémarré, un bouche à oreille. Bien sûr, tous les artistes dits en développement, c'est-à-dire ceux qui étaient moins installés, évidemment que ça va être plus compliqué pour eux.
Comment l'abordez-vous, Grand Corps Malade, ce coronavirus, quand il arrive, enfin plus que le coronavirus, ce confinement, comment l'avez-vous abordé ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était quand même spectaculaire.
Ouais, bah un peu comme tout le monde, au début, je traitais un peu ça par le mépris, comme certains, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces mesures? C'est quoi? Rien de plus qu'une grippe. Comme tout le monde, je me suis rendu à l'évidence. Non, c'est pas juste une grippe classique. Donc,
n'êtes pas Bolsonaro non plus. Hein.
J'étais pas Bolsonaro. Non, ouais. Quand je dis que je me suis rendu à l'évidence, c'était quand même très tôt. Hein. Très vite, dès le mois de mars, on a compris qu'on avait affaire à quelque chose de très sérieux, d'inédit. Et moi, j'ai milité autour de moi et sur les réseaux pour dire restez chez vous. Et là, l'acte héroïque, c'était de rester à la maison, donc c'était quand même pas très compliqué de le faire. Donc évidemment, c'était la moindre des choses à faire et pour essayer de faire circuler ce truc-là le moins possible.
Et laissez-moi deviner, vous avez été touché par le sort des soignants et aussi par le sort des invisibles, vrai ?
C'est vrai, c'est vrai. Les transparents de la République. Que j'ai écrit un texte pendant le confinement qui s'appelle « Effet secondaire », où je parlais de ça, forcément, évidemment, comme tout le monde, j'ai pensé aux soignants, mais en même temps, je trouvais ça dommage qu'on y pense que maintenant, comme si l'hôpital allait très bien jusqu'ici. Non, c'est pas le cas, ça fait très longtemps que l'hôpital suffoque et qu'il lui-même est en réanimation, pour continuer de filer la métaphore. Et donc du coup, bien sûr, oui, j'ai parlé d'eux dans ce texte-là, mais pas que d'eux, aussi ouais, des services publics en général qui sont un peu oubliés, qui sont un peu à l'agonie, et puis aussi de tous ces petits métiers qui ont continué de vivre et de prendre des risques pendant que nous, on était tranquillement à la maison. Donc ouais, ceux qui livrent, ceux qui sont à la caisse des magasins, etc.
Mesdames, votre album de duo avec des dames, qui est attendu en septembre, on va y arriver, Grand Corps Malade. Vous êtes dans Culture Média ce matin et on est bien contents.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Fabien Marceau est ce matin l'invité de Culture Média. Ah bah ça sonne pas pareil.
C'est pas pareil, Fabien Marceau.
Ouais. Grand Corps Malade, il vous pèse pas à la longue votre nom d'artiste?
Ah non, pas du tout.
C'est vrai ?
Non, du coup, au départ, c'était une boutade, c'était une connerie dans un bar où il me fallait un nom de scène un peu aussi chelou que mes potes slammer. Et voilà, donc ce nom un peu de Sioux. Mais après, il est né dans un bar un soir de 2003 et je l'aime bien. Et aujourd'hui, évidemment, je vois plus les trois mots vraiment grand corps, malade. Enfin, maintenant, voilà, c'est mon nom de scène. Je l'aime bien, je l'assumerai jusqu'au bout.
Oui. Et puis de toute façon, c'est compliqué d'en changer. Hein.
Oui, c'est compliqué d'en changer. Puis ça continuera de définir avec ce nom de Sioux mon physique. Ça aussi, ça va être compliqué d'en changer. Donc du coup, ça restera cohérent jusqu'au bout.
Est-ce que quand se pointe le mois de juillet, là, vous savez que vous allez repenser à cette date, à la date de votre accident, ou tout ça, c'est vraiment dépassé ?
Non, j'y pense jamais.
Ah ouais ?
Des fois, je me rends compte, ah tiens, on est le 17, ah, c'était hier l'anniversaire de l'accident. Non, ça, c'est loin tout ça.
En tout cas, tout ça vous a beaucoup servi. Quand je dis tout ça, c'est la vie en fait, à la fois. Bon, il y a eu votre expérience de rééducation qui a amené un livre, qui a amené un film qui s'appelle Patient. Est-ce que c'est ça qui est à la base de votre succès aussi Grand Corps Malade, c'est-à-dire prendre des bribes de votre vie pour les transformer en œuvre, quelle que soit sa forme? C'est comme ça que vous fonctionnez?
Ouais, bien sûr. Et puis il se trouve que j'ai une vie particulière. Se retrouver tétraplégique à l'âge de 20 ans, je vous assure que c'est une expérience un peu chelou. Hein. Donc du coup, je pense que ça mérite d'être raconté. C'est pour ça que je l'ai raconté dans ce livre, puis dans ce film. Et le but, vraiment, c'est pour ça que dans le film, le personnage ne s'appelle pas Fabien, il s'appelle Ben. On ne parle pas de slam, on parle pas... Parce que le but, c'était d'élargir le propos. Oui, ça m'est arrivé à moi. Le film, c'est 100% mon histoire. Tous les personnages du film ont existé, toutes les scènes ont eu lieu. Mais après, on s'en fout que ce soit mon histoire. Le but, c'est de raconter c'est quoi être tétraplégique à 20 ans. C'est quoi vivre dans un centre de rééducation qui accueille sur un même étage des personnes lourdement handicapées. Voilà, donc ça, c'est une expérience notable. Que, oui. Que les gens connaissent pas, donc ça mérite, je pense, d'être expliqué, d'être témoigné.
Mmh. Et c'est bien pour vous ou c'est bien pour les autres ?
Non, c'est bien pour les autres. Moi, j'ai pas besoin de ça. Alors, j'ai besoin de ça pour vivre, parce qu'aujourd'hui, mon métier, c'est d'être artiste et de faire des chansons et des films. Mais après, le livre, je l'ai écrit peut-être 15 ans après mon accident, le film 17 ou 18 ans, je sais pas. Du coup, non, j'ai pas besoin de ça pour aller mieux. C'est pas un exutoire du tout.
Alors pareil, disons différemment, mais quand même dans la même voie, pour votre deuxième film, La vie scolaire, qui est sorti l'an dernier, vous avez malaxé cette matière première personnelle, vos souvenirs du collège de Saint-Denis avec votre pote co-réalisateur Mehdi Idir. On va écouter un extrait.
Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous.
Monsieur, en fait, ça tec la nouvelle coupe, hein. On dirait un vrai daron maintenant.
Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord ? Que t'as ton fils qui est en sixième juste à côté.
Yanis, tu cherches quoi là ? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça ?
Mais je te préviens, moi je vais pas te lâcher.
Là, t'es sur une mauvaise pente et c'est trop dommage parce que moi je sais que tu vaux mieux que ça.
Et si je valais pas mieux que ça ?
La vie scolaire, carton, à chaque fois ça marche, C'est fatigant, non ?
Non, c'est bien.
Ah, c'est
bien.
Fatigant, ce succès-là.
Ah non, c'est que ça continue encore. Non, c'est bien quand un film comme ça, avec tous ces gamins qui n'étaient pas du tout acteurs, qu'on a pris essentiellement dans le quartier des Framboisins à Saint-Denis, là où on a tourné, de vivre cette aventure avec eux pendant un an, deux ans, et qu'après ça marche bien, et que les gens les reconnaissent dans la rue, qu'aujourd'hui il y en a qui ont des agents, qui passent des castings. Non, c'est super, c'est bien que ça marche, c'est super.
Et c'est quand même votre sincérité qui fait la différence, non ? C'est ça qui... qui touche les gens. Vous le savez pas, vous pouvez pas le savoir.
Non, je sais pas. J'espère en tout cas que ce que je fais, je continue de le faire avec sincérité. On essaie toujours de le faire. Moi, j'essaie toujours de me mettre dans la démarche, que ce soit pour un slam. J'ai commencé le slam dans les bars. Et moi, j'écrivais pour aller le vendredi soir slammer dans mon bar. Et là, il n'y avait pas d'autre enjeu qu'essayer de passer un bon moment, d'être sincère avec son texte et le public qui va être en face. Là, à l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de disques, pas de télé. Donc, j'essaye, je ne sais pas si j'y arrive à chaque fois, mais de rester tout le temps dans cette démarche-là, de trucs. Voilà, j'écris un truc pour le faire dans un bar. Même un film, voilà, c'est pour les gens du bar. Je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, j'essaye toujours de rester là-dedans.
Est-ce que vous craignez parfois, Grand Corps Malade, de manquer de vécu, de ne plus en avoir assez pour créer ?
Pour l'instant, non. J'ai l'impression que la question se pose limite peut-être un peu plus pour la musique, parce que j'ai déjà fait, ça c'est mon 7e album. Et qu'en effet, il n'y a pas un nombre de thèmes complètement inépuisables, quoique. Et après, même un même thème, il peut être abordé de tellement de façons différentes. Donc, pour l'instant, non, ça ne m'inquiète pas. Je me dis, tiens, mais est-ce que je vais encore avoir des trucs à raconter avec ce que je vis ? Il y a ce que je vis, puis il y a ce qu'on vit autour. Enfin, tu vois, et heureusement que je n'écris pas que sur ma propre vie. Je ne suis pas complètement auto-centré. Et il se passe quand même encore pas mal de choses autour pour avoir des sujets à traiter, quoi.
Bon, on va y arriver à cet album de duo. En plus, je l'avais promis, je n'ai pas tenu. Bon, c'est comme ça. Duo avec vos dames. Mm-hmm. À tout de suite, Grand Corps Malade. Vous revenez, et bien, moi aussi, par la même occasion.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Alors, pour le coup, Grand Corps Malade, le deuxième extrait disponible de votre prochain album de duo est un solo.
C'est le seul, oui. C'est le seul. En fait, il y a 9 duos sur cet album. Et puis, il y a un morceau en solo, le premier de l'album, qui présente un peu le projet.
Ouais, c'est ça.
Qui s'appelle lui aussi Mesdames.
Mm-hmm, donc, c'est un peu le prologue.
Ouais, c'est un peu l'introduction de l'album.
Mm-hmm. Vous voulez qu'on l'écoute ?
Ah, j'aimerais bien.
Bah, moi aussi, j'aimerais bien. Mesdames. Grand Corps Malade.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Mesdames, grand corps malade, déclaration d'amour. C'était casse-gueule cette affaire, non?
Ouais, tout. Sauf si on fait ça avec sincérité, ce que
vous dites tout à l'heure. Non, mais c'est sur un fil, vous l'admettez.
Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi que je déconnecte à la fin en disant, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Parce qu'évidemment que ça peut paraître tellement premier degré, tellement... Et en même temps, je pense tout ce que je dis. Quand je dis, vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort pour toi. Il y a certains qui m'ont dit, attends, mais toutes les femmes sont subtiles, élégantes et classe. Vraiment, tu le penses? Eh bien non, mais je pense que la moyenne des femmes est beaucoup plus subtile, élégante et classe que la moyenne des hommes. Non, je le pense vraiment. Je pense que c'est encore important de faire du premier degré pour mettre à l'honneur les femmes. Je continue d'être complètement, scandalisé sur le fait de l'histoire des salaires. Quoi. À poste égal, comment une femme peut être aussi peu payée comment on peut encore accepter... moi, j'ai vu d'un très bon œil tous les mouvements des MeToo et des Balance ton porc. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Hein, quand j'ai vu une déclaration de l'Élysée qui disait que l'accusation pour viol de M. Darmanin n'était pas un obstacle à sa nomination.
Alors, on en est encore à viol présumé. Hein,
Présumé. Et je suis,
enquête, disons.
Voilà, ouais. Mais le truc...
Ça vous scandalise?
Je pense que les femmes qui se battent justement pour qu'on progresse sur ces sujets-là, doivent se dire que c'est pas gagné quoi. Bien sûr qu'il y a une présomption d'innocence, mais cette phrase elle est dure quand même. Cette accusation de vol n'est pas un obstacle. C'est quand même dur quand t'es une femme que ça a dû t'arriver d'être un peu harcelée, d'être je me dis qu'il y a encore du boulot quoi. Donc du coup un texte très premier degré, même s'il y a un petit clin d'œil pour déconnecter à la fin sur la délicate démagogie, je pense que c'est encore utile.
C'est évidemment un morceau qui s'adresse à toutes les femmes. C'est le principe, mais il y en a quand même quatre illustres qui sont mises en exergue: Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Est-ce que c'est crétin de remarquer qu'il y a deux blanches et deux noires?
Franchement, j'ai pas fait exprès. Vraiment, j'ai pas fait exprès. C'était dur. Je me suis dit il faudrait quand même que je fasse un petit hommage à des grands noms de femmes. C'est les premiers qui me sont venus à l'esprit. J'en oublie certainement plein d'autres. Non, j'ai pas fait exprès qu'il y ait de blanches et de noires. En tout cas, je trouve que c'est bien. Il y a une femme politique. Il y a une Rosa Parks à la base, une anonyme qui s'est juste révoltée contre un système. Il y a une militante.
On peut rappeler que Rosa Parks est connue pour avoir enfreint les règles de ségrégation aux États-Unis et qui indiquait que les noirs étaient au fond du bus et les blancs devant.
Assis. Et elle a refusé de laisser sa place dans le bus. Angela Davis, donc une militante féministe. Black Panther, etc. Et puis Marie Curie, une scientifique. Je me suis dit, en tout cas, là, on touche plusieurs métiers, mais je n'avais pas fait gaffe qu'on touchait plusieurs couleurs. Mais tant mieux.
Ouais, cet album des duos avec vos dames qui s'appelle Mesdames, Grand Corps Malade. Alors, qui et pourquoi? Je vais vous citer les noms et une phrase pour commenter. Hein. Véronique Sanson.
Parce que c'est une légende et qu'en plus, je la connais, que j'ai déjà fait un duo avec elle. Et au moment de dire, tiens, je vais inviter des chanteuses, je ne peux pas ne pas penser à elle.
Louane.
Parce que je ne la connaissais pas et que j'aimais beaucoup son timbre de voix et je sais qu'elle a un parcours assez compliqué et du coup c'était intéressant aussi d'écrire, j'ai écrit sur mesure un peu sur son parcours qui est quand même, elle a eu une adolescence très dure et Louane, le personnage m'intéressait et la chanteuse j'aime beaucoup.
Suzanne,
parce que je l'ai vue débarquer un peu comme tout le monde dans l'univers musical il y a un ou deux ans, et que c'est une bombe d'énergie, et avec en plus, là on a co-écrit notre texte, je le dis, ça va être notre surnom, notre prochain single, ça s'appellera Pendant 24 heures, et c'est je suis 24 heures dans la peau d'une femme et elle d'un homme, et elle écrit sa partie, elle écrit super bien, et voilà, j'étais très content de faire ce duo avec elle.
Laura
Smet. J'ai d'abord écrit le texte, c'est le seul texte qui était écrit avant d'aller lui proposer. Et j'avais envie d'une femme un peu glamour, un peu mystérieuse. Et j'avais envie d'une actrice, parce que c'est un morceau qui n'est pas vraiment chanté, qui est plus parlé, raconté. Et du coup, je suis allé lui proposer ce texte. Et elle est géniale, Laura. Je ne la connaissais pas. Elle est enthousiaste, elle est humble. Très belle rencontre.
Vous êtes plus Laura que Laetitia, alors?
Ouais, je crois, ouais.
Alors, deux artistes qu'on ne connaît pas. En tout cas, pas moi. Qu'Alicia.
Alors, Alicia.
Alicia
a... Alicia, oui. Ouais.
Ah, Alicia, pardon.
Elle a fait le buzz sur les réseaux avec un... Elle a 17 ans, peut-être 18 maintenant. Elle a écrit et composé une chanson qui s'appelle Aidez-moi. Alors, ça s'écrit en un mot. Aidemwa. Aidez-moi. C'est sur les violences conjugales.
Et la maturité de cette chanson est magnifique. Dire qu'elle a écrit et composé, donc vous pouvez aller la voir parce qu'elle est sur les plateformes, les réseaux, etc. Du coup, je l'ai entendue sur ce morceau-là. Et puis après, elle était à Paris pour un showcase. Je l'ai rencontrée pour lui proposer. Et la dernière invitée s'appelle Manon.
Manon, on a 20 secondes pour Manon.
Manon, petite slameuse qui a gagné un tournoi de slam à 14 ans. J'étais dans le jury. J'ai adoré. Elle n'est absolument pas artiste. Elle est juste collégienne, mais je l'adore.
On a tout le monde là ou vous nous en cachez ?
Ah oui, les sœurs Berthollet.
Ah oui.
J'ai un duo avec les deux sœurs, les prodiges violonistes de la musique classique. Et voilà, je les ai invitées sur un morceau.
Et bien justement, après la pub Grand Corps Malade, figurez-vous qu'on va faire passer. Je suis sûre que vous aimez ça, les recommandations culturelles, les indispensables. Lors d'Autriche était hier aux répétitions à la Philharmonie de la 7e, aux répétitions de la 7e de Beethoven. Et le chef d'orchestre finlandais, Klaus Mäkelä, a 24 ans. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Et à chacun ses petits bonheurs dans la vie, Grand Corps Malade s'offre des duos avec des dames. Et vous, Laure d'Autriche, bonjour Laure.
Bonjour.
Eh bien, vous avez choisi de nous parler d'un jeune chef d'orchestre que le monde entier s'arrache. Il a 24 ans, bon, ça fout les poules. Il est finlandais, il s'appelle Klaus Mäkelä. Il donnera ce soir un concert à la Philharmonie de Paris. C'est l'occasion de remarquer que la Philharmonie rouvre après 3 mois de confinement.
Oui, absolument. Et Klaus Mäkelä vient d'être nommé à la tête de l'Orchestre de Paris. Il prendra ses fonctions dans 2 ans. Et ce qui en a surpris plus d'un, c'est son âge. 24 ans, vous l'avez dit. Klaus Mäkelä est clairement l'un des talents les plus courtisés parmi les jeunes chefs d'orchestre. Alors, il a commencé par apprendre le violoncelle, qu'il pratique toujours à un haut niveau, puis la direction d'orchestre à la prestigieuse Académie Sibelius d'Helsinki. Alors, quand vous le voyez, c'est un garçon studieux, avec des lunettes, grand, svelte, un petit air d'Yves Saint-Laurent. Et je l'ai rencontré hier, après sa répétition avec l'Orchestre de Paris, et je lui ai demandé quel était pour lui le rôle d'un chef d'orchestre et quelle posture il adopte lorsqu'il arrive face à un orchestre qu'il ne connaît pas.
Quand j'arrive, je dis seulement quelques mots en introduction, juste pour dire, on va jouer telle œuvre. Et ensuite, on se met à jouer tout de suite. Donc je ne parle pas plus que ça. Et ce qui me fascine, c'est qu'on sent tout de suite les connexions musicales qui se produisent entre nous. Et je regarde les musiciens, comment ils sont. En fait, diriger un orchestre, c'est motiver un énorme groupe de musiciens à jouer du mieux qu'ils peuvent. Donc je dois leur demander beaucoup. Mais je dois faire attention à ne pas être autoritaire ou odieux. Être chef d'orchestre, c'est être dans un dialogue avec les musiciens. Et pour dialoguer, je dois les écouter, bien sûr.
Et ce qu'on entend ici, c'est la 7e de Beethoven, la 7e symphonie, qu'il a répété justement, le son que j'ai capté hier après cette répétition.
Alors, ce fameux Klaus Mäkelä, a-t-il beaucoup d'expérience avec des orchestres à travers le monde?
Oui, déjà pas mal. Alors, en France, il a dirigé à Toulouse, à Lyon. Il est en ce moment le chef principal de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, en Norvège. L'année prochaine, il a des engagements à Londres, à Leipzig, à Amsterdam, à Boston, où il jouera des répertoires très différents. Le compositeur qu'il préfère, c'est Mozart. Depuis toujours, Mozart. Aucun doute là-dessus, c'est ce qu'il m'a dit. Et sa vocation à lui remonte déjà il y a longtemps. Klaus Mäkelä avait 7 lorsqu'il a voulu devenir chef d'orchestre.
Je chantais dans un chœur d'enfants à l'opéra en Finlande et j'ai entendu Carmen de Bizet, qui est une œuvre pleine de drame, pleine d'intensité. Quand le chœur d'enfants dont je faisais partie a chanté sur scène, j'ai été tellement fasciné par la musique et je me suis dit, être un chef d'orchestre, c'est avoir toute cette musique qui vous tombe dessus. C'est pouvoir travailler sur toutes ces partitions. C'est comme ça que j'ai voulu devenir chef d'orchestre. Et aujourd'hui, c'est ça qui est génial. Je travaille sur des chefs-d'œuvre. La 7e symphonie de Beethoven, par exemple, qu'on va jouer ce soir, j'ai appris la partition quand j'avais 13 ans. Et aujourd'hui encore, dès que j'ouvre la partition, je découvre quelque chose de nouveau dedans que je n'avais pas repéré avant. C'est ce qui se passe avec les chefs-d'œuvre.
Les chefs-d'œuvre, voilà. Et ce qui frappe quand vous le regardez diriger, eh bien c'est sa gestuelle très claire, très expressive. Et il est capable, ça c'est assez surprenant, de faire comprendre quelque chose à l'orchestre en bougeant un doigt sur seulement 2 ou 3 centimètres. Il travaille sur les détails, les atmosphères, c'est assez frappant. Si vous avez un jour l'occasion d'aller le voir ce soir ou sinon en novembre prochain, il sera à Paris. Donc ce soir, le concert à la Philharmonie ne se fera pas devant une salle pleine, puisque contrainte sanitaire, évidemment, oblige. Klaus Mäkelä dirigera un programme Ravel et Beethoven, la 7e symphonie.
Merci beaucoup. Nous étions dans les coulisses de la Philharmonie grâce à l'Or d'Autriche et nous y étions avec Klaus Mäkelä. Merci à vous. On va essayer, Grand Corps Malade, de bouger le doigt de 2 cm, voir ce que ça donne.
Diriger des musiciens avec un ongle, ouais, c'est pas facile.
Vous avez une recommandation, vous, Grand Corps Malade, parce qu'on aime bien faire passer ici, vous voyez.
Oui, ben moi je suis allé à l'avant-première mardi de Tout Simplement Noir. Film qui est du coup sorti le lendemain, donc hier.
Oui, on était hier même à votre place, là, il y avait le co-réalisateur Jean-Pascal Zadi.
Jean-Pascal Zadi et John Wax, donc les deux réalisateurs. Eh ben, j'ai beaucoup rigolé. C'est très fort, à la fois évidemment c'est plein de sens et en même temps ils disent des choses qui déconnectent eux-mêmes parce que dans une même scène ils vont te faire la thèse, l'antithèse et puis l'antithèse de la thèse et puis voilà, ils sont contraires. Donc c'est intéressant parce que sur ce sujet évidemment de la représentation des Noirs dans la société française, etc., il y a des vrais, évidemment il y a un vrai sens et ils s'amusent beaucoup avec ça. Il y a énormément d'autodérision, il y a un casting incroyable et puis Jean-Pascal Zadi au milieu de tout ça, il est très drôle. Et,
ça riait dans les salles ?
Ouais, ça riait beaucoup. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment drôle, hein. Il faut aller le voir. Et plus, bon, il n'y a pas énormément de choses au cinéma à aller voir, donc c'est sûrement le film du moment.
Voilà, et ça s'appelle Tout Simplement Noir.
Tout Simplement Noir.
Voilà, ce film vous est recommandé par Grand Corps Malade. Vous savez qu'ici, pendant tout l'été, on lit la première page d'un roman de la rentrée.
D'accord.
Je vous jure. Et je vais vous le prouver dans un instant. Ne quittez pas. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Bon, faut que je vous avoue, avec Grand Corps Malade, on a essayé de bouger notre doigt, mais c'est pas passé grand-chose. Hein.
Fait bouger du tout. Il n'y a aucun génie de la musique classique qui est apparu.
Non. Alors, on va récapituler toutes d'autres actualités, hein, parce que ça prend toujours un petit peu de temps. Donc, il y a cet album de duo, Mesdames, qui est attendu, quoi qu'il arrive.
Le 11 septembre.
Le 11 septembre.
Quoi qu'il arrive, il y a 2 extraits qui sont déjà sortis, Mais je t'aime avec Camille Lelouch et Mesdames en solo.
Et le prochain sera probablement celui avec Suzanne.
Ouais, exactement.
Pendant l'été, vous pensez
Ouais, fin d'été, au moment de la sortie de l'album.
Ah, pas avant?
Non, pas avant, je pense pas. On va prendre des vacances un peu.
Oui, bon, enfin, il faut sortir quand même, il faut sortir
non,
tout seul, il suffit que vous appuyez sur play.
Il faut qu'on
voyez
fasse un clip, il faut qu'on fasse des trucs comme ça. Et du coup, on en parlait en antenne, le duo avec Suzanne est très rythmé, etc. Parce que la plupart de l'album est très rythmé, avec des rythmiques assez costauds.
Ce qui ne s'entend pas là, pour l'instant.
Bah ouais, c'est pas le cas des premiers extraits. Et c'est Moziman qui a fait la musique, je dois le citer, car il a fait un travail incroyable. C'est un DJ, donc spécialiste plutôt des rythmiques électro, et en même temps très fort dans la mélodie, dans la nuance, voilà, très fort.
Par ailleurs, Grand Corps Malade, voilà, vous m'avez dit ça micro fermé, donc on va le répéter micro ouvert. Vous venez d'écrire une série.
Oui, on est en train de finir d'écrire une série.
C'est qui on ?
On, c'est avec mon pote Mehdi Idir, Minos toujours, et avec Youssef Hadji, avec Jean Rachid, toute la même bande. Mais on écrit avec Youssef Hadji qui va être l'acteur, le premier rôle de cette série.
Pitch.
Très grossièrement, ça va être une série, une comédie, hein, pure comédie, même un peu barrée, dans le milieu du stand-up, avec ça va s'appeler Youssef. Et c'est ce jeune, pas plus trop jeune d'ailleurs, cet humoriste qui a du mal à percer, et du coup, pour y arriver, il va faire des trucs très bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est compliqué à écrire une série, par rapport à tout le reste.
Ouais, hein. c'est encore un peu plus long, quoi. Forcément, un film, au final, ça dure moins de 2 heures, bah là, une série... c'est au moins 4-5 heures de film au final. On est sur un format 8 ou 10 épisodes d'une demi-heure. Donc
mais c'est pas du tout la même mécanique, si.
C'est pas si différent que ça. Après, il y a des petits détails voilà, où tu reviens sur des choses, tu peux développer d'autres personnages un peu plus en profondeur. Après, ça ressemble quand même à un film, grosso modo. C'est quand même un scénario d'un truc qui va passer sur des images. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à une chanson, ça ressemble quand même plus à un film qu'à un slam, quoi.
C'est signé ?
Quasi. On a trouvé a priori un diffuseur, donc c'est quasi signé.
Et c'est quel horizon en temps
Nous, on pourrait tourner dès cet hiver, mais on n'a pas envie, parce que l'hiver c'est chiant. Il fait nuit tôt, il fait froid, on
c'est
a des scènes
raison,
de
ouais.
Dehors, ouais, c'est une très bonne raison. Donc on va attendre, on va tourner au printemps. Donc après, le temps de monter tout ça, bon, c'est pas avant minimum fin 2021. Quoi.
Ça va être bien.
J'espère que ça va être bien, ouais.
Donc du coup, pas de prochain film tout de suite
Pas loin. En parallèle, on va commencer à écrire aussi. On a des idées, toujours avec Mehdi d'hier, des envies. Donc, on s'embête pas.
Mais vous ne vous arrêtez donc jamais.
Il y aura
jamais.
Une tournée aussi, une tournée en 2021, une tournée musicale. Parce que quand même, j'espère en tout cas, dès qu'on va pouvoir vraiment reprendre des vrais concerts avec des gens collés, et j'ai bon espoir que ça arrive... Moi, j'ai très envie de remonter sur scène avec cet album Mesdames, où il y aura peut-être des invités.
Oui, alors ça va être compliqué.
C'est-à-dire que On va jouer, évidemment, on va adapter des morceaux de ce nouvel album, Mesdames, mais aussi avec des morceaux des anciens. Et puis, on va faire quelques belles exceptionnelles avec un maximum de ces invités ES pour faire voilà, un beau spectacle tous ensemble.
Mmh. Puisque je suis en train de vous soutirer des informations, vous parliez aussi d'un prochain film qui parlera de quoi ?
Ouais, c'est trop dur. Non, vraiment, désolé, c'est beaucoup trop tôt. Mm. Mais ça va parler d'une personne qui a existé. Bon, voilà, c'est un indice.
Biopic ?
Voilà, on peut... J'en ai trop dit, mince, elle est trop forte.
Un homme ou une femme ?
Bon, je vais devoir y aller maintenant. Merci beaucoup, Pascal Clark, pour cette invitation.
Oh, mais juste ça, un homme ou une femme.
Ah, ça va, on a parlé de beaucoup de mesdames, on va pas, ce sera un homme.
Ah là là, j'aimerais bien savoir. Un sportif, non ?
Oh, on en a trop dit. Pascal, au bout d'un moment, il faut terminer cette émission,
non,
on ne peut pas rester
là-dessus. C'est vrai, d'ailleurs, on va la terminer maintenant, tout
d'accord,
de suite.
D'accord, bah, finalement.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant en 30 secondes, de définitif, de captivant, d'émouvant ?
C'est dur.
Faites attention à vous déjà.
Ouais, continuez de faire attention. Il paraît qu'il y a des petits trucs qui recirculent, donc soyez prudents, les enfants, quand même.
Vous portez le masque là en sortant, vous allez le
mettre.
Ouais,
masque. Je me lave beaucoup les mains, tout ça. Ouais. C'était bien ces 30 dernières secondes.
Ouais, c'était fort, c'était puissant. Merci beaucoup, Grand Corps Malade, d'être passé par Culture Média. Il y a beaucoup d'actualités, j'ai pas le temps de tout rappeler, mais on va dire l'album Mesdames des duos qui sortira en septembre. Merci à vous. Roman de la rentrée, première page, lecture. Ce matin, Muriel Barbery, son livre Une rose seule est attendu le 19 août chez Actes Sud. On raconte que dans la Chine ancienne, sous la dynastie des Song du Nord, un prince faisait chaque année cultiver un carré de 1000 pivoines, dont à l'orée de l'été, les corolles ondulaient dans la brise. Durant 6 jours, assis sur le sol du pavillon de bois où il avait coutume d'admirer la lune, buvant de temps à autre une tasse de thé clair, il observait celle qu'il appelait ses filles. À l'aube et au couchant, il arpentait le carré. Au commencement du 7e jour, il ordonnait le massacre. Les serviteurs couchaient les belles assassinées, la tige brisée, la tête allongée vers l'est, jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur le champ qu'une unique fleur, les pétales offerts aux premières pluies de mousson. Alors, les 5 jours suivants, le prince demeurait là, en buvant du vin sombre. Sa vie entière tenait dans ces 12 révolutions de soleil. Toute l'année, il ne pensait qu'à elle. Lorsqu'elles étaient passées, il faisait vœu de mourir. Mais les heures dédiées à choisir l'élu puis à jouir de leur tête-à-tête muet contenaient tant de vie en une seule qu'il ne voyait pas de sacrifice dans les mois de deuil. Une rose seule, Muriel Barbery, le 19 août chez Actes Sud. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Alex Good et Carla Bruni. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Je vous embrasse pas, à demain.